L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans La Bonne Humeur, dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère pour de vrai, avec de vrais gens, des vous et moi, comme les citoyennes et les citoyens du climat de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime. Chaque trimestre à peu près, nous les recevons dans l'EM pour que leur mission de porte-parole et d'ambassadrice ou d'ambassadeur ait eu aussi une forme radiophonique. Les précédentes émissions sont sur le site internet de la radio et vous pouvez les réécouter, et notamment celle consacrée aux panneaux solaires avec un achat groupé qui est en train de se concrétiser. Venez mercredi prochain, 9 octobre, à l'améthyste de Crozon à 18h30 si vous êtes intéressé. Il y aura aussi une séance de rattrapage le jeudi 10 octobre à 20h30 en visioconférence. Vous pouvez aller sur le site internet des citoyens du climat de notre communauté de communes pour en savoir davantage. En attendant, un tout autre sujet donc dans cette émission, même si c'est toujours en rapport avec le climat, on va parler de nos déchets. Et vous me direz, mais quel rapport entre les déchets et le climat? Alors je vous en donnerai deux, parce que, et d'une, beaucoup de nos déchets sont encore brûlés et incinérés, ce qui contribue à l'effet de serre et donc au réchauffement de la planète. Et de deux, les déchets sont en fait souvent des ressources qui pourraient être réemployées, réutilisées plutôt que jetées, ce qui économiserait d'autres ressources, qui éviterait des opérations d'extraction ou de fabrication qui, elles, consomment de l'énergie et qui réchauffent la planète. Nos invités aujourd'hui, Céline Marzin, citoyenne du climat, Hervé Gumez, citoyen du climat de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
D'autres arguments sur les liens entre le déchet et climat ?
Oui, avec les emballages cartonnés, par exemple. Donc, on coupe des arbres, des forêts pour fabriquer des cartons ou des sacs en papier craft qui ne sont utilisés qu'une fois la plupart du temps.
Exact.
Et nous avons besoin des forêts pour réguler notre petit climat.
Et aussi le fait que les déchets plastiques sont faits à base de pétrole, donc un exemple d'extraction. Hervé, un autre lien entre le climat et les déchets.
Un autre lien entre le climat et les déchets, des produits lointains, on a besoin de les transporter, on a besoin de les transporter, donc pareil, augmentation des gaz à effet de serre. Et
on ne les transforme pas forcément en déchets, parfois on les mange.
parfois on les mange, mais parfois... Alors je pense il faut s'échapper aussi des déchets uniquement alimentaires, et puis il y a des déchets qui sont des déchets vestimentaires par exemple, où là il y a aussi des filières complètes qu'il faut travailler.
On appelle la fast fashion, des vêtements quasiment jetables. Enfin, on les met 2-3 fois, là, ils coûtent 2 euros et on les jette aussi secs parce que, enfin, ils sont d'ailleurs envoyés souvent en Afrique. Hein. En plus, ça fait encore du carbone consommé pour éloigner les déchets de nous, en fait. Et puis bon, la collecte, c'est des camions. Hein. Enfin, on va en parler. On va d'abord rappeler, à l'échelle de la communauté de communes de Crozon et de l'Aulne-Maritime, ce que nous coûtent les déchets, parce qu'en fait, ça coûte très cher. Donc pour convaincre les gens que réduire les déchets, c'est pas seulement une question de planète, c'est aussi une question de porte-monnaie.
Complètement. Si on regarde bêtement le coût par habitant, finalement, c'est un peu la bonne donnée qu'il faut avoir. Ça coûte environ 175 euros par personne le traitement des déchets.
Donc, juste le traitement, la collecte aussi ou quoi ?
Toute la collecte et le traitement.
Par an. 175 euros.
Et par habitant.
Ok. Bon.
Donc si on regarde un peu plus, il y a environ 4500 tonnes d'ordures ménagères, les poubelles de tri à peu près la moitié, et puis les déchets verts, 4500 tonnes également, ce qui correspond quand même à des volumes relativement importants. Quand on regarde les 4500 tonnes, ça représente environ 13 piscines olympiques complètes de déchets verts par an.
Juste de déchets verts, hein, pas juste d'emballage plastique. Et pour donner aussi un chiffre impressionnant, le budget global déchets chaque année, c'est plus de 8 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 8 millions d'euros ? Hein, Céline ?
Un petit magasin de producteurs, peut-être ?
Sa petite marotte. Donc, les déchets, on pourrait dire, les déchets de la Comcom, ils sont quand même valorisés, n'est-ce pas ? Ils sont triés ou alors ils sont envoyés, en recyclage. Hervé, un petit point là-dessus sur la valorisation ?
Alors, la Comcom, Pays de l'Aulne, de Crozon et de l'Aulne-Maritime, est est finalement assez bonne dans le traitement des déchets, parce qu'on valorise pas mal, et il y a relativement peu de choses finalement qui arrivent comme déchets extrêmes, c'est-à-dire qu'on est obligé d'enfouir tout finalement.
Ou de brûler. Ouais. Il y en a quand même.
L'incinération participe potentiellement on utilise la chaleur qui est générée par l'incinération.
C'est à Briec qu'on envoie. À Briec, ça chauffe des serres de tomates. Donc c'est pas totalement perdu.
Exactement. C'est pas totalement perdu. C'est du gasoil qu'on n'utilise pas pour chauffer les serres. Autrement, l'enfouissement sur les 20 tonnes environ d'ordures et de déchets qu'on récupère chaque année sur le territoire, il y a environ que 2000 tonnes qui sont enfouies.
Qui ne servent vraiment à rien. Parce que
Ne servent à rien, ce sont généralement des gravats ou des encombrants.
Sinon, les gravats, on peut souvent les réutiliser pour refaire d'autres routes ou d'autres chantiers.
Ouais, c'est ça. Alors peut-être que la filière sur notre territoire n'est peut-être pas encore au point.
Après, il y a des matières qui ne sont pas encore recyclées, qu'on ne sait pas encore recycler, c'est ça, peut-être. Bon, le polystyrène, on commence tout juste, je crois, chez nous.
Oui, et puis le plastique est quand même très, très présent dans notre environnement. On a créé ex nihilo ce qu'on appelle un septième continent dans nos océans, rien qu'avec le plastique. On a aujourd'hui du plastique dans les sols, dans l'eau. Des chercheurs en ont trouvé dans des cœurs d'humains quand
ils
l'ont analysé. Dans notre sang. Et aujourd'hui, on nous a informé aussi qu'on respire le plastique.
Oui, exact, c'est vrai. Et en plus, alors, les plastiques, d'ailleurs, ce n'est pas le plastique, c'est les plastiques, parce qu'il y a plein de sortes de plastiques qui sont très difficiles parfois à recycler parce qu'ils sont imbriqués, ils sont mélangés. Et ce n'est pas parce qu'on les envoie, nous, la communauté commune, à un recycleur, qu'ils seront vraiment recyclés, en fait. C'est ça aussi qu'il faut savoir.
Voilà. Une partie est quand même enfouie.
Voilà, c'est ça. Donc, très bien. Donc là, on a un peu l'état des lieux sur ce que ça coûte et, en termes de santé et en termes d'argent. Hein, et puis en termes de, je ne sais pas,
d'environnement et de réchauffement, de changement climatique.
Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire ces déchets. Déjà, à la source, éviter de produire des déchets.
Et ça peut être notamment avec les déchets végétaux, parce que en fait, ces déchets végétaux, il y a beaucoup d'eau dedans, donc c'est quand même une aberration de brûler ces déchets végétaux, et on peut en faire beaucoup de choses. On peut les broyer quand il s'agit des coupes de haies ou de petites branches, et pour en faire du paillage quand on fait du jardinage.
Plutôt que de le mettre dans sa remorque, de l'emmener à la déchetterie et de récupérer le broyat, il y a peut-être moyen de broyer sur place, c'est ça ?
De broyer sur place ou de le laisser se décomposer sur place. Ça fait des abris pour des animaux, des petits animaux comme les hérissons ou d'autres animaux plus rampants. Et ça peut être, en plus de sa poubelle jaune et sa poubelle verte, un petit espace de stockage d'un mètre carré, deux mètres carrés, où on peut laisser ça se décomposer sans avoir à le transporter ou après le laisser à la charge de la régie publique de se débarrasser de ces déchets.
Et si les branches ne sont pas trop épaisses et qu'on a une tondeuse à gazon, on peut aussi les broyer directement à la tondeuse et puis ça fait un paillage pour ces plates-bandes. Quoi.
Tout à fait. Et dans des périodes où on sera amené de toute façon à avoir des sécheresses un petit peu longues, le paillage permet à l'eau de ne pas s'évaporer, celle du sol.
Sachant qu'on est donc un territoire où il y a beaucoup de jardins. Hein. Donc si on produit des déchets, c'est parce qu'on a beaucoup de jardins. Donc on doit pouvoir réutiliser dans son jardin sans envoyer et sans passer par la case déchetterie finalement.
Oui, ce qu'on vient de dire pour les broyats ou les branches est également valable pour les pelouses ou l'herbe. On peut particulièrement conserver l'herbe tondue sur le terrain où elles ont été générées, soit en...
Là, on est même obligé maintenant parce qu'on ne peut plus apporter sa tonte en déchetterie. C'est nouveau. Voilà. Et sur les biodéchets, maintenant, les communautés communes ont l'obligation, n'est-ce pas, de nous proposer des solutions de traitement des biodéchets. Ce n'est pas encore nous qui sommes vraiment obligés de traiter nos biodéchets, mais pour les personnes qui n'habitent pas, qui habitent en appartement, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire de ces épluchures et autres biodéchets ?
Et alors, il y a des composteurs, il y a par exemple Bokashi, Et donc la communauté de communes propose ces ustensiles pour le bokashi ou un compost plus classique.
Qu'est-ce que c'est un bokashi ? Il faut nous expliquer.
Et le bokashi, c'est un compostage anaérobie, donc sans air, et qui permet de récupérer, donc une fois le compost fait,
c'est un bidon,
ça coule, c'est un bac fermé. Mmh. Et vous avez une matière qui coule et qui est extrêmement condensée en tout un tas de molécules qui sont très intéressantes pour le jardin. Et ensuite, vous pouvez diluer ça à 10% avec de l'eau pour fertiliser vos plantes plutôt que d'acheter des fertilisants industriels qui, là aussi, en termes de production, génèrent beaucoup de CO2. Plus le transport. Et ça, c'est vraiment des matières de ce que vous ne mangez pas, que vous pouvez mettre dans ce bocal et ensuite récupérer quelque chose. C'est vraiment une ressource. En fait, le mot déchet est problématique.
C'est ça.
Il faut absolument qu'on arrive à un peu à changer notre imaginaire et considérer ce qu'on ne mange pas comme une ressource.
Alors, quand on n'a pas de jardin, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire de son jus de bokashi ? On peut le proposer à quelqu'un qui a un jardin.
Proposer à ses voisins, à ses amis, à des gens qui seraient intéressés. Il y a des jardins partagés qui ont commencé à se créer en presqu'île. Et du Lamire, notamment, en a fait un. Et on peut tout à fait amener soit ses déchets, soit son jus de bokashi.
Oui, puis il y aura peut-être un jour des collecteurs de bokashi, puisque comme c'est assez précieux le bokashi, pareil pour ce qui est du lombricompost. Alors qu'est-ce que c'est un lombricomposteur ? Pareil, petite explication.
Un lombricomposteur, c'est un composteur à plusieurs étages où on met tout en haut nos déchets alimentaires, majoritairement de légumes et pas que. Il y a un petit peu de carton aussi qui est nécessaire, un peu de carbone. Et ensuite, les lombrics se trouvent à des étages en dessous. Et ils se nourrissent de cette nourriture qu'on n'a pas choisi, nous, de manger. Et donc, ça donne un terreau qui est extrêmement, extrêmement fertile et extrêmement intéressant.
Là, c'est intéressant. Pareil, quand on a un jardin, et puis quand on n'en a pas, on trouvera bien quelqu'un qui sera intéressé.
Après, il y a les composteurs collectifs. Il commence à y en avoir en presqu'île. Sur l'Envioc, il y en a un. Telgruc, je pense qu'il y en a aussi également.
Ils sont en cours d'installation, en fait.
Ils sont déjà installés.
Ils sont déjà installés.
Certains sont installés, mais la plupart sont encore en cours d'installation. Ouais.
Tout le monde qui a un jardin potentiellement peut composter, même sans avoir de composteur.
Après, on va toujours soulever des problèmes générés par le compostage. C'est parce qu'on est encore des novices en compost qu'on a des rats, par exemple, parce qu'on ne s'en occupe pas bien, en fait.
Non, je ne pense pas. Les rats ne sont pas forcément attirés par le compost. Ça dépend de ce qu'on y met, en fait. Et
c'est quand on ne touille pas son compost qu'on a les rats, en fait. Il faut touiller son compost. C'est ça, le secret. Enfin, on n'aura pas de rats dans le bokashi ou dans le vermicomposteur, lombricomposteur. D'autres déchets, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ce qui peut paraître plus des vrais déchets que les ressources de jardin, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Par exemple, les vêtements, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Ah bah les vêtements, il faut déjà ne plus les acheter neufs. Je crois qu'on a suffisamment produit de vêtements depuis quelques années.
Ou alors des très bonnes qualités qui va durer 20 ans.
Mais aujourd'hui, on a quand même des ressources pour trouver des vêtements d'occasion. Parce que la production de vêtements est extrêmement polluante, notamment en termes de consommation d'eau et de chimie. Et aussi en termes d'humains, les personnes qui travaillent majoritairement, les vêtements sont produits sur d'autres continents. Et avec des personnes qui travaillent, qui sont très peu payées dans des conditions absolument pas acceptables. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de vêtements qui sont disponibles, qui sont ramenés dans des associations comme le Secours Populaire, le Secours Catholique et les Restos du Cœur aussi récupèrent des vêtements.
Et nous, est-ce qu'on peut les acheter ?
Et dans les vides-greniers.
Ouais. Et nous, on peut les acheter. Donc en presqu'île, le Secours Populaire de Crozon organise régulièrement
des braderies maintenant. Une braderie qui a eu lieu sur 2 jours cet été et qui a été très, très populaire et très courue. On a aussi beaucoup dans les vides-greniers, en fait, les familles qui ramènent des vêtements qu'ils n'utilisent plus. Et que ce soit pour les bébés, les enfants ou les adultes. Et c'est vraiment une bonne ressource. On fait quelques économies. On permet de ne pas créer un déchet, du coup, quand ces vêtements sont rachetés. Et ils sont souvent de très bonne qualité aussi. Et c'est une vraie ressource. Et ensuite, les vêtements non utilisés repartent via des associations comme Habit 29,
Alors, à Bi-29, et ce qu'il faut préciser, c'est qu'à Bi-29, un magasin permanent qui n'est pas en Presqu'île, qui est juste à côté, c'est à Châteaulin. Donc, on peut aussi aller acheter des vêtements de bonne qualité. Et c'est vrai qu'après, les vêtements qui ne sont plus métables, qui sont trop vieux, eux, sont envoyés
à une autre association, une autre entreprise qui récupère, comme c'est la Watt, et qui récupère ces vêtements pour ensuite les transformer en isolant pour les bâtiments.
Donc ça, c'est les vêtements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme déchets, entre guillemets, qui ne sont pas des déchets, mais qu'on peut réemployer ?
Il y a tout ce qui est emballage. Aujourd'hui, 95% de la consommation se fait en grande surface, avec des aliments qui, potentiellement, sont sur-emballés.
Oui.
Aujourd'hui, une des possibilités qu'il y a, c'est bien sûr d'acheter en vrac, quand on peut le faire, ou c'est d'acheter local, marché, et ainsi de suite. C'est-à-dire éviter tout sur-emballage qui est absolument inutile.
Et ce que la plupart d'entre nous ne savent pas, et on est peu à le savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2021, une loi est passée justement dans l'objectif de réduire complètement les déchets. Aujourd'hui, l'objectif affiché politiquement en France, c'est de plus de plastique d'ici 2040.
Non réutilisable, en tout cas.
Oui.
À usage unique, comme on dit.
À usage unique. Et donc, depuis janvier 2021, vous avez la possibilité de venir avec vos contenants dans toute surface de vente au détail pour pouvoir acheter en vrac.
Même en supermarché ?
Même en supermarché, même s'ils ne l'affichent pas, c'est tout à fait possible et ils n'ont pas le droit de vous refuser un contenant qui soit propre.
Ouais, pour acheter à la coupe, par exemple.
Pour acheter
c'est
à
ça,
la coupe vos aliments.
Et sinon, quand on achète emballé dans un supermarché, on peut laisser les emballages sur place aussi. Ça, c'est pareil, on ne le sait pas toujours. Mais en fait, ils ne peuvent pas vous refuser de récupérer les emballages.
Hervé ? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mmh. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'était sous forme de blague. On était en train de se dire finalement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on sort du supermarché, ouais. Puis on laisse tous nos déchets d'emballage finalement à l'intérieur du caddie.
Ça ne résout pas vraiment le problème.
Ça ne fait que le déplacer.
Ouais. Mais, enfin, ça fait peut-être avancer la réflexion.
Ça fait avancer la réflexion pour tous les gens qui potentiellement vont faire leurs courses en supermarché.
Et puis il y a les objets, ce qu'on appelle le réemploi ou même la réutilisation des objets qui sont encore en état de servir. Donc là, quelles sont les solutions très locales, Céline ?
C'est les ressourceries qui se créent un petit peu partout. Celle de Crozon, il y a aujourd'hui une ressourcerie, mais il y a aussi un projet d'ici 2 ans. 3 ans sur la création d'une grande ressourcerie avec un atelier aussi et des outils disponibles pour pouvoir redécouper, réparer.
Ouais.
Et aussi l'idée c'est d'avoir aussi des ateliers pour pouvoir faire de la réparation.
De l'upcycling, comme on dit, c'est-à-dire améliorer un objet ancien.
Et l'État français a mis en place depuis quoi, deux ou trois ans la possibilité de pouvoir récupérer un peu de sous si on fait réparer des outils du quotidien, de l'électroménager ou autre.
Oui, on a des réparateurs ou actrices sur le territoire d'ailleurs. Enfin, une couturière, par exemple, envoyer un vêtement réparé chez une couturière, ça peut faire l'objet d'une petite aide financière, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors, savoir.
C'est le cas aussi, je crois, pour la cordonnerie, pour les chaussures et
l'électroménager
et autres. Oui.
Alors, je reviens sur l'électroménager. Il est relativement facile de bricoler, entre guillemets, son électroménager ou de réparer son électroménager. Je prends l'exemple du grille-pain. Le grille-pain, ça...
Bah non, c'est pas facile, moi j'ai essayé.
C'est... oui,
c'est pas facile.
Mais finalement, la réparation la plus courante avec un grille-pain, c'est, ou l'objet qui permet de réparer un grille-pain, c'est l'aspirateur, qui permet de nettoyer tous les contacts. Et généralement, le grille-pain repart pour une partie de vie.
Mais alors, quand il a vraiment un problème, parfois il est très difficile à démonter. Ils font exprès. Hein. Voilà, c'est ça en fait.
Et puis on a aussi dans le bâtiment.
Alors voilà. Alors c'est pas tout à fait sur le territoire, mais c'est vraiment à côté.
C'est vraiment à côté. Donc il y a une association qui s'est créée il y a un an qui s'appelle Rake Up, qui cherche toujours des locaux d'ailleurs. Et l'idée c'est effectivement d'aller récupérer des matériaux encore utilisables dans le cadre de démolition ou dans le cadre de fin de chantier, des matériaux neufs. Et aussi d'avoir un atelier à disposition avec des outils pour que tout un chacun puisse venir fabriquer ou faire des découpes dans le cadre de la menuiserie, d'un aménagement intérieur et aussi de trouver des professionnels à disposition.
On a il y a déjà une ressourcerie spéciale matériaux de construction à Brest qui fonctionne bien, qui s'appelle la réserve des matériaux. Donc,
Et il y en a une autre à Pleyber-Christ aussi, très grande et très intéressante.
D'autres exemples de ressourceries spécialisées éventuellement, à part les matériaux et les vêtements dont on a parlé? Non, pour l'instant, pas de ressourcerie à proximité.
Après, non, il y a la consigne en fait, qui va arriver aussi.
Le verre.
L'expérimentation qui va se faire là en Bretagne à partir de janvier. Sur le verre, je ne sais pas s'il y aura aussi sur les bouteilles en plastique.
Alors, on a la Bretagne a la chance d'être une région où on va expérimenter la consigne de verre. Donc, on va voir ce que ça donne.
Le sujet aujourd'hui pour notamment les producteurs, c'est effectivement les machines qui coûtent très cher pour pouvoir laver les contenants en verre. Et à voir comment il peut y avoir un endroit où effectivement plusieurs producteurs pourraient se regrouper. Mais aujourd'hui, ces machines coûtent très cher. C'est un vrai frein pour les producteurs de proposer des contenants en verre.
Ouais, et quand il y a des contenants qui sont déjà consignés, c'est plutôt les grands, par exemple les grandes bouteilles de bière plutôt que les canettes, parce que ben voilà, c'est une question de taille critique. Enfin bon, on va suivre ce dossier. On prévoit une émission. Pour l'instant, on l'a pas encore mise en place sur la consigne de verre. Il y a un déchet tabou presque. Hein, mais je sais que Céline aime beaucoup qu'on parle de ce déchet. C'est le déchet humain. Et là, il est question d'assainissement, c'est-à-dire en gros notre urine et nos fesses. Donc, alors, qu'est-ce qu'on
en fait aujourd'hui, le système d'assainissement collectif consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau potable. Pour l'instant, c'est de l'eau potable. Et effectivement, et en plus, alors il faut séparer ces déchets-là, mais l'urine est quand même une ressource assez intéressante. Les fesses humaines, après, aussi, mais...
Oui, mais ça demande plus de traitement.
Ça demande plus de traitement. Et compliqué. Si on a un bout de jardin, il faut vraiment laisser composter pendant au moins un an. Mais l'urine peut être une ressource très intéressante. C'est un bon fertilisant.
Et puis c'est stérile. Enfin, c'est ça.
C'est stérile
pour ça que c'est
pas un problème, on n'y rajoute pas d'eau. C'est un milieu stérile et le Futuroscope à Poitiers a depuis deux ans installé des urinoirs où il récupère cette urine pour la retraiter et la mettre à disposition d'agriculteurs. Et là aussi, c'est vraiment un très gros avantage par rapport au changement climatique. La production de ces fertilisants agricoles sont quand même une grande pollution.
Il y a même des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, alors c'est pas en Bretagne, mais qui font ça, du collectage. Donc les clients, en fait, en plus d'acheter des légumes, apportent des bidons d'urine aux maraîchers et qui sont très contents, apparemment.
Bah, dilué à 10%, c'est la même chose que le bokashi. Le bokashi, on peut encore le diluer un peu plus, mais effectivement, l'urine diluée à 10%, c'est de l'or au jardin. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, écrit par un maraîcher belge.
Et ça suppose d'avoir des toilettes sèches, en fait, notamment.
Bah, ça suppose surtout d'avoir des séparateurs dans les... J'étais à Rennes là, la semaine dernière, deux jours sur un festival. Et effectivement, il y avait une petite jolie caravane avec un séparateur dans les toilettes sèches, un séparateur de matière, ce que je n'avais jamais vu jusque-là. Donc, il récupérait les urines. Et...
Bon, c'est encore des prototypes, hein, c'est ça, en fait, ce qu'il faut dire. C'est que
on peut le faire. Hein,
le sujet, on
les toilettes
nous,
sèches,
radio,
c'est quoi
on
C'est un
peur,
seau. Mais c'est, enfin, le volume traité est juste très important. On s'est retrouvé sur la presqu'île pendant plusieurs années. Certaines communes à ne pas pouvoir accorder des permis de construire parce que justement les réseaux collectifs d'assainissement étaient trop petits, n'avaient pas été agrandis en même temps que le nombre de permis de construire accordés. Et alors qu'il y a des solutions assez simples qui peuvent se trouver pour des personnes qui ont des petits bouts de jardin.
Hervé, un dernier mot sur cette question des déchets, des déchets humains.
Ces déchets humains, si, c'est un sujet qui est relativement intéressant. Alors, on commence à voir l'évolution aujourd'hui où les Vespasiennes sont aujourd'hui sans eau. Et
ah oui.
Ça, c'est une grande, grande évolution. Alors ça, c'est valable pour le collectif. Et pourquoi ne pas le faire migrer vers l'individuel? Aujourd'hui, on peut très bien séparer ses urines de ses fèques, même si on n'a pas une toilette sèche.
Oui, ça se fait maintenant.
Ça se fait très, très bien. Donc essayons aujourd'hui de minimiser le volume d'eau consommée pour nos déchets humains.
On s'arrête là sur les déchets. Alors, je vais vous donner deux petites informations. Sachez qu'il y a une application internet du service gestion et prévention. Ah oui, non, il y avait encore des choses à dire. Pardon, ah bah alors allez-y,
non,
il vous reste une minute.
Non, la vraie question aujourd'hui, c'est quel est le besoin ? A-t-on besoin d'avoir son réfrigérateur plein pour se sentir bien ? A-t-on besoin d'avoir 15 jeans dans son placard pour se sentir bien ? Donc c'est de la juste consommation et de la juste prise de conscience, tout simplement.
La sobriété dans nos achats, quels qu'ils soient, pour avoir moins de déchets et moins de plastique dans l'environnement et dans nos corps.
Et tant qu'on en aura donc des déchets, je disais, il y a une application internet du service gestion et prévention des déchets de la communauté de communes pour suivre les levées de bacs, les ouvertures de colonnes, les entrées en déchetterie. Donc voilà, ça c'est juste du pratico-pratique. Et pour les visiteurs de passage qui sont souvent nombreux chez nous, il y a aussi des colonnes à digicode. Il faut le savoir, je dis, il faut se renseigner auprès de la communauté de communes. Quant aux citoyennes et citoyens du climat, on les reverra bientôt. Dans à peu près un trimestre. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir.
Merci. Au revoir.